Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les titres de ce journal, situation sécuritaire à Goma. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, indexe les silences et la passivité de la communauté internationale et l'Union africaine au vu des récentes atrocités commises par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Plus de détails dans ce journal. Alors que la situation humanitaire se dégrade dans la zone de Goma, Médecins sans frontières affiche une détermination de venir en aide aux populations bloquées dans la ville. Stéphane Gwetebouer est l'invité de ce journal. Bienvenue à cette édition d'information. Dans un message au peuple congolais et au reste du monde, mercredi 29 janvier, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, indexe les silences et la passivité de la communauté internationale et l'Union africaine au vu des atrocités commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Il déplore l'impunité au profit du Rwanda qui viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, les accords régionaux et toutes valeurs défendues par ses institutions. Dans cette adresse, Tshisekedi appelle tous ses compatriotes à un soutien indéfectible, moral et matériel aux vaillants soldats des FRDC. Billy Van Lutumba nous en parle.
Le président congolais regrette que les agissements du Rwanda et la présence de ses militaires sur le sol congolais constituent une provocation inacceptable au regard de la souveraineté de la RDC et de la stabilité régionale.
La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable.
Le silence constaté de la communauté internationale et de l'Union africaine déplore le chef de l'État congolais, frise une complicité, martèle-t-il.
Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité.
Devant cette situation telle que décrite, le président congolais Félix Tshisekedi reste déterminé et déclare que la RDC ne se laissera pas humilié, mais se battra pour triompher sur l'ennemi.
Pendant ce temps, l'Angola appelle le M23 et les forces rwandaises à se retirer sans délai du territoire congolais. Dans un communiqué publié ce mercredi 29 janvier 2025, le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et les Rwanda, déplore l'occupation des Goma et annonce son intention de convoquer de nouvelles discussions à Luanda. Toutefois, il conditionne cette initiative au retrait immédiat du M23 de territoire illégalement occupé, ainsi qu'au départ des forces de défense rwandaises. Grâce à Mzati pour les détails.
Selon le président angolais, le M23, appuyé par des forces rwandaises, contrôle à ces jours une grande partie de Goma, principale ville de l'est de la RDC. Face à cette situation, João Lourenço insiste sur l'urgence de relancer les discussions sur la présence du M23 et des autres groupes armés actifs en RDC. L'Angola exhorte également la RDC et les Rwanda à respecter leurs engagements afin de réunir les conditions nécessaires à la tenue d'un sommet tripartite à Luanda, dont la date sera communiquée ultérieurement. Pour rappel, les précédentes médiations entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi, menées sous l'égide de l'Angola, avaient échoué en décembre dernier. João Lourenço espérait alors obtenir un accord de paix, mais son homologue rwandais ne s'était pas déplacé.
Pourtant, la communauté d'Afrique de l'Est, EAE, réunie hier en visioconférence pour discuter des tensions dans l'Est de la République démocratique du Congo, a appelé toutes les parties au conflit à cesser les hostilités et à observer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à faciliter l'accès humanitaire à la population affectée. Le sommet a appelé à un règlement pacifique des conflits et a fortement invité les gouvernements de la République démocratique du Congo à s'engager directement avec toutes les parties prenante, y compris le M23. Enfin, les sommets recommandent les deux communautés régionales, la SADC et la EAST, African Community d'organiser un sommet conjoint pour voir la voie à suivre. Le sommet a chargé le président Kenya Ruto de consulter le président de la SADC sur la convocation urgente de cette réunion dans les prochains jours. Sachez que le président Tshisekedi n'a pas participé à cette réunion. La situation sécuritaire est relativement calme ce jeudi dans la ville de Goma, au Nord Kivu, après des affrontements signalés dans la nuit d'hier entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC dans la partie nord de la ville. Toutefois, l'incertitude plane au sein de la population au regard de la présence des rebelles dans plusieurs quartiers de la ville. Les activités socio-économiques restent dans l'ensemble paralysées malgré la reprise progressive de la circulation. Grâce à Mzati.
Selon des sources locales, cette accalmie s'étend même au quartier nord de Goma où des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti pendant plusieurs heures de la nuit. Les quartiers Katoi, Kibwe, Kasika, Majengo, Bugamba 1 et 2 ainsi que Turunga ont été particulièrement touchés bien que quelques coups de feu sporadiques aient encore été signalés. Malgré la présence des rebelles, certains habitants se rendent au lac Kivu à la recherche de l'eau. Un acteur de la société civile nous décrit le climat.
Il y a l'eau qui n'est pas en train de couler, il y a l'électricité qui n'est pas jusque-là rétablie, la nourriture qui cause problème parce qu'il n'y a pas vraiment l'approvisionnement total en nourriture à Goma.
Et quant à la circulation des personnes dans la ville?
Si vous arrivez du côté du quartier Murara, hein, là on parle de l'office, du côté du centre-ville, TMK, SNEL, Trois Paillotes, il y a une circulation humide déjà. Si vous arrivez Andosso, Mugunga, il y a une circulation. Nous sommes en train de nous poser la question, même si les activités recommencent, parce qu'il y a là où les activités commencent à se faire sentir petit à petit. Mais le mal en est que ce sont ces deuils-là, parce que presque dans tous les quartiers, il y a des deuils. Presque dans tous les quartiers, il y a des corps sans vie. C'est ce qui est en train maintenant de traumatiser, de déstabiliser les citoyens de Goma sur le plan moral, quelles que soient certaines circulations de certains de nos citoyens.
Par ailleurs, des sources concordantes confirment la reprise du trafic sur l'axe Goma-Sake Minova-Masisi.
Arrivé à Kinshasa du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot jeudi matin en provenance de Paris en France pour une visite officielle de quelques heures en République démocratique du Congo. Selon les sources diplomatiques européennes auprès de l'ACP, aucun détail n'a pourtant été obtenu autour de l'agenda du chef de la diplomatie française en RDC. Monsieur Barrot est accompagné dans cette mission de l'envoyé spécial Grand Lac du gouvernement français Emmanuel Coué, a précisé une source. La délégation des officiels français regagnera Paris en début d'après-midi ou pourrait se rendre à Kigali, au Rwanda, selon un autre diplomate européen de Kinshasa. Le parti politique Action pour un Congo Nouveau, ACN, en sigle, condamne avec la dernière énergie l'incursion de l'armée rwandaise dans la ville de Goma sous couvert du M23 et invite tous les Congolais à s'unir pour bâtir un Congo plus fort. Dans une déclaration de presse ce mercredi à l'ACN, l'ACN présente ses condoléances aux familles qui ont perdu le leur, plus particulièrement au FRDC et au Wazalendo dans la défense de l'intégrité du territoire national, tout en remerciant les pays amis à la RDC qui ont déjà pris position contre le Rwanda. L'ACN invite la communauté internationale à quitter la phase de simple déclaration de condamnation du Rwanda pour des actions concrètes contre l'agression dont est victime la RDC. Le président de l'ACN, Célestin Vunabandi, au micro de Michel Kifindangoy.
Mon parti demande au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour venir en aide à tous les sinistrés qui se comptent par millions dans la ville de Goma et sur l'ensemble des provinces du Nord et du Sud Kivu. À l'endroit de nombreux citoyens congolais qui organisent des manifestations de solidarité avec la population de Goma, ce qui est une très bonne chose. Piller les magasins, saccager les biens des paisibles citoyens, semer la terreur ne pourront pas du tout résoudre les défis sécuritaires auxquels notre pays est exposé. Ces actes ne font que fragiliser notre économie et détruire nos propres ressources. En ces moments difficiles, l'ACN invite les peuples congolais à rester unis, résilients et solidaires. Une solidarité qui doit se traduire par des actions concrètes et constructives. Au-delà des manifestations, il est donc important d'organiser des collectes et d'envoyer de l'aide aux populations sinistrées à travers les organisations qui interviennent sur place. Aussi, l'ACN invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée nationale pour défendre la patrie aujourd'hui menacée par l'agresseur.
Sur terrain, les habitants de Goma expriment leur inquiétude face aux risques sanitaires liés à la non-évacuation des corps des victimes des combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Parmi les entités où s'observent le plus de corps se trouvent Kitoukou dans les quartiers Kieshero et les quartiers Mourara vers la prison de Goma. D'autre part, des sources concordantes parlent de plusieurs corps d'hommes en treillis militaire étalés à même les sols devant la morgue de l'hôpital général de référence de Goma. Cette situation soulève des craintes quant à une éventuelle putréfaction des corps exacerbée par les coupures de courant dans la ville et l'incapacité des morgues locales à les accueillir. Suivez les témoignages de cet habitant joint par Ronéline Tibonera à Goma.
Dans presque chaque rue de la ville de Goma, il y a des corps qui gisent sur le sol. Goma, il y a ceux-là qui n'ont pas quitté leur maison depuis le dimanche soir. Et le matin, du coup, quand il se réveille, il trouve qu'à sa porte, aussi la route, il y a des corps qui gisent. Il est très inquiet. Les gens appellent des numéros qu'on a donnés pour appeler pour les blessés. Les gens les appellent les numéros de Croix-Rouge. On les appelle pour des corps sans vie retrouvés au niveau des routes, des rues, dans la ville de Goma, dans des avenues. Donc là, on est dépassé. On n'a pas de numéros appelés pour les corps qu'on a identifiés dans des routes, dans des rues, dans des avenues, partout ailleurs. Avec l'odeur qui dégage ces corps dans des rues, dans des avenues et partout ailleurs dans des routes principales de la ville de Goma et des routes secondaires. Il y a des risques que les gens atteignent des maladies non identifiées parce que moi-même j'ai été au niveau des Kamuzenze parce qu'avec l'odeur qui dégage ces corps, c'est très compliqué, on peut être affecté par des maladies.
Au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans la province du Sud Kivu, les gouverneurs suspendent toute navigation sur les lacs Kivu. Cette suspension s'applique à tous les bateaux et autres embarcations de toute nature, qu'ils soient de transport des personnes, des marchandises ou des pêches. Jean Kassami nous décortique l'arrêté de l'autorité provinciale du Sud Kivu à ces propos.
La décision est contenue dans l'arrêté signé hier à Bukavu par le gouverneur professeur Jean-Jacques Purusi. L'arrêté annonce que la navigation est suspendue jusqu'à nouvel ordre, que les contrevenants se verront arrêtés, leurs unités placées sous chaîne, mais aussi des amendes sévères leur seront appliquées. Le gouverneur charge le ministre des Transports, les commandants de la 33e région militaire, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise et bien d'autres de veiller à l'application stricte des mesures contenues dans cet arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, le 29 janvier 2025, et abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
La marche de soutien au FARDC et au président de la République sur toute l'étendue du Haut-Katanga est annulée. La décision est du Conseil provincial de sécurité qui a eu lieu ce mercredi à Lubumbashi. Pour faire respecter cette décision, des mesures sécuritaires sont prises et une sévère mise en garde est faite contre tout récalcitrant. Entre-temps, la société civile du Haut-Katanga appelle tout le monde au calme. Jean Gandou.
À travers la ville de Lubumbashi, des dispositifs policiers et de l'armée sont visibles ci et là. C'est notamment à la place de la Poste et au rond-point Carrefour. L'objectif est de préserver l'ordre et d'éviter toute manifestation du genre de ce qui s'est passé à Kinshasa, apprend-on de la police. Entre-temps, toutes les activités se déroulent normalement et la société civile en profite pour appeler toute la population à plus de retenue. Bertin Chose, du groupe thématique Gouvernance, Paix et Sécurité.
Nous avons des expériences de 1996. Où il y a eu pillage, les conséquences, nous sommes en train de le payer jusqu'à ces jours. Il ne s'agit pas de piller pour dire que nous soutenons les FARDC, non.
Dans toute la province du Haut-Katanga, les réunions et autres meetings politiques sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise au cours du Conseil provincial extraordinaire de sécurité, tenu ce mercredi sous l'égide du gouverneur du Haut-Katanga. D'autres mesures ont été prises, comme l'indique le directeur de cabinet du gouverneur de province qui en a fait la lecture, Polydor.
Les forces de l'ordre et de sécurité doivent assurer la protection et la sécurité des personnes et de leurs biens. La journée du 30 janvier 2025 étant ouvrable, toutes les activités se poursuivent normalement.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le Kenya est confronté à une double menace pesant sur sa sécurité alimentaire, les changements climatiques et la contrefaçon des semences. Face à ces défis, de nombreux agriculteurs misent sur les semences indigènes, jugées plus résistantes et mieux adaptées aux conditions locales. Cependant, une loi de 2012 criminalise l'usage, la vente ou les trocs des semences indigènes non certifiées, imposant ainsi aux cultivateurs l'achat des semences hybrides coûteuses.
L'invité.
Alors que la situation humanitaire se dégrade dans la zone de Goma, Médecins sans frontières affiche une détermination de venir en aide aux populations bloquées dans la ville. Selon Stéphane Goubiour, chef des programmes MSF présentement au Nord Kivu, face à l'urgence, ses équipes s'activent dans la fourniture d'eau potable et la fourniture d'une assistance sanitaire. Il indique qu'une priorité est accordée à la prise en charge des blessés des guerres enregistrés lors des combats. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Monsieur Stéphane Goudbur, bonjour.
Bonjour.
Que retenir actuellement de la situation humanitaire dans la ville de Goma où les MSF travaillent?
Elle est très difficile à identifier avec exactitude. Parce que pour le moment, les gens commencent un petit peu à bouger, mais avec parcimonie, parce que la sécurité est toujours assez instable. Donc les gens bougent très peu et il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, pas d'eau accessoirement, mais pour avoir une vision globale des besoins de la population, évidemment, le réseau et les capacités de déplacement sont importants. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. On a pris des contacts avec les premiers hôpitaux, en plus des structures qui étaient supportées avant l'attaque sur la ville, dont opérationnelles. On a des équipes CIR qui opèrent à côté des chirurgiens congolais et des chirurgiens du CICR pour essayer de répondre à un afflux de blessés qu'on sait qui est massif. Pour l'instant, il y a des matériels chirurgicaux qui est déposé à l'hôpital général de Virunga. Donc, on essaie de pallier au plus pressé, en sachant que nous avons malheureusement perdu une partie de nos moyens dans les pillages en ville. Donc, il y a des stocks qui ont disparu. Donc, on essaie de faire vraiment de pallier au plus pressé avec les moyens qui nous restent pour essayer de sauver. Parce que les heures présentes sont les heures spéciales pour les blessés et pour d'autres besoins humanitaires d'urgence.
Alors, lorsque vous parlez des besoins humanitaires d'urgence, je vais parler, par exemple, des camps de Kanyaruchinya, mais également Lushagala. Je vais dire la distribution d'eau potable auprès de la population. Est-ce que ces genres d'appui sont encore observés sur le terrain ou vous avez changé d'approche?
La situation est très différente selon les camps. Et donc, il y a des camps dans lesquels l'accès à l'eau est toujours garanti. Il y en a d'autres où, malheureusement, le matériel a disparu. Donc, le matériel de distribution d'eau a disparu. Ce qui pouvait être utilisé a été disparu. Donc, il n'y a plus de latrine, plus de douche et plus de distribution d'eau. Camp de l'axe nord de Kanya, dont vous parlez, et malheureusement, Kanya, à ce stade, nous ne pensons pas que nous sommes en mesure d'y aller, que la situation n'est pas suffisamment stable sur la route pour y arriver.
Ça fait 4 jours que les combats sont signalés dans la zone. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les nombres de blessés déjà enregistrés par les structures que vous soutenez, mais également peut-être de morts?
Non, les chiffres que je serais capable de vous donner seraient de toute façon une fraction de la réalité, parce que nos collègues congolais en venant, ceux qui ont pu se déplacer pour venir au bureau et recommencer le travail, nous ont parlé de beaucoup de morts. Les morts sont en train d'être collectés par la Croix-Rouge congolaise et le CICR, mais il y en avait beaucoup. Et des blessés, c'est très difficile aussi. Je pourrais vous donner le nombre de ceux qui ont été soignés par Médecins sans frontières et CICR, mais il y a des blessés partout et il y a probablement des blessés qui maintenant n'ont pas eu accès aux hôpitaux. Donc malheureusement, des chiffres exacts, je ne peux pas vous les donner, mais je peux vous dire que les structures médicales sont débordées. Ça c'est confirmé et qu'il y a probablement encore beaucoup de cas qui vont sortir dans les heures et peut-être dans les jours qui viennent.
Tenant compte de la cartographie et des besoins humanitaires urgents, qu'est-ce qui est priorisé actuellement par MSF dans la région de Goma?
Les blessés. Une priorité, c'est vraiment de répondre aux blessés, mais juste après, vous savez, il y a le support déplacé. Vous savez que le choléra était endémique dans les camps autour de Goma. Nous avons une structure, un centre de santé qui a continué à recevoir 15 cas par jour à l'est en direction de Saté. Donc la priorité pour nous, c'est d'aller ravitailler ces structures-là, et de prévenir la diffusion d'épidémies telles que le choléra et de répondre à ces besoins-là, et de faire un appel aussi pour que d'une manière ou d'une autre, l'eau soit rétablie et l'électricité en ville, parce que tant que Donc cela n'est pas fait, vraisemblablement, la situation va continuer à détériorer.
Vous avez perdu une partie de votre matériel dans les pillages à Goma. De combien de moyens vous avez besoin pour mettre en œuvre certaines activités que vous jugez prioritaires?
On doit faire un point de tout ça, mais vous devez savoir que ces stocks-là n'étaient pas des stocks qui étaient destinés à répondre à un événement tel que celui de la semaine passée. C'était destiné à supporter des structures existantes, ici à Goma, bien sûr, mais aussi ailleurs dans le Nord Kivu, à partir de Goma, où des structures médicales, des hôpitaux sont supportés par MSF et même et Kivu aussi. Donc, les besoins globaux, certains stocks sont intacts. Avec ces stocks-là, nous allons répondre aux besoins des blessés en priorité. Et puis, nous allons essayer de trouver des sources d'approvisionnement moyens d'amener, de remplacer ce qu'on a perdu et de pouvoir répondre aux besoins urgents de la population. Mais pour ça, on va devoir réorganiser des chaînes logistiques de supply, de procurement de supply, excusez-moi, je trouve pas mes mots en français, mais d'approvisionnement, en médicaments et en matériel médical.
Un dernier message ou un appel à lancer à la communauté internationale qui vous écoute?
Ce qui s'est passé ici est vraiment terrible, dans une situation qui était déjà terrible. La situation humanitaire de Goma était terrible avant les incidents de cette semaine-ci. Il est très difficile à ce stade, j'insiste, d'avoir une vision globale des besoins parce que les conditions ne sont pas là pour faire une analyse, mais on peut juste simplement imaginer l'ampleur des besoins au vu de ce qu'ils étaient avant et de ce qui s'est passé ces derniers jours aussi.
Stéphane Goodbur, nous disons merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
Je vous en prie, merci à vous pour votre travail.
Nous sommes désolés pour la qualité sonore de cet élément. Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'information de la mi-journée sur Radio Okapi. Jean-Claude Tiala a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Tukota-Tivueta. À la présentation, c'était Patience Ngalula-Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir écouté.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur